Vous écoutez Du vent dans les plumes, la chronique qui ébouriffe les pages et donne des idées de lecture sur CFM Radio.
En partenariat avec la librairie Du vent dans les plumes à Cordes-sur-Ciel.
Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec.
Ah bon ? Elle est bretonne ?
Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi.
Si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, magne-toi, ça va péter dans 15 secondes.
C'est chouette comme métaphore, non ?
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin.
Bonjour, c'est Julie de la librairie Du vent dans les plumes. Je vous souhaite une belle année 2026. On vous remercie beaucoup d'avoir été si nombreux à venir dans la librairie au mois de décembre et d'avoir pensé à faire des cadeaux livres. Voilà. Et là, c'est la première rubrique de l'année 2026. J'ai fait le choix, qui n'a pas été très difficile, de travailler aujourd'hui cette séquence autour d'autrices. Voilà, donc je vais vous présenter, pour commencer, un coup de cœur que j'ai eu. Là, ça faisait partie de la rentrée littéraire. Elle était un peu passée, en tout cas de mon côté, elle était un peu passée derrière les radars. Et là, je l'ai repérée et je l'ai lue et je me suis régalée avec un livre qui s'appelle « Trois fois la colère » de Laurine Roux. Et c'est aux éditions du Sonneur. Donc, « Trois fois la colère », ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous annoncer la couleur. C'est les premières pages. La première page de « Trois fois la colère » de Laurine Roux. Et on est embarqué du coup dans une fable médiévale shakespearienne. Allez, on y va. Le sac bringue-balle contre le flanc du cheval. La jeune fille goûte le corps à corps avec la bête. Ses cuisses et son sexe collés au mouvement de l'animal. Cadence régulière, heurte des sabots cherchant appui entre les pierres. La cavalière goûte au branle du sac contre l'abdomen de l'alezan, la tête empaquetée dans le baluchon, roulant d'avant en arrière, prisonnière du chanvre. De temps à autre, à la faveur d'un emballement, le barda cogne son mollet. Alors la vengeresse sourit. Il lui semble qu'Hugon de Bure lui baise la jambe, la suppliant depuis ses ténèbres de ne pas aller plus loin. Pas un jour ne s'est passé sans qu'elle se remémore l'instant où, voilà une semaine, elle a fait face au seigneur dans le fracas des armes. D'abord, ils ont été 100, puis 10. Les autres fauchés, embrochés, éventrés ou garrottés par des adversaires peu enclins à se faire catéchiser. Au seuil de la reddition, elle s'est trouvée aux côtés de son maître. Il l'a fixée avec l'expression de qui Samarre a un visage ami, en plein chaos, son fidèle écuyer, sa lanterne. La jeune fille a relevé sa tignasse, exhibé la tache rouge à sa nuque, enfin arraché son palstron. Deux cerises jolies au milieu de l'albâtre, trogne ahurie du vieux. Des seins chez un garçon. Elle a ri, joie féroce du faible qui berne le fort. Hurlé qu'elle n'était pas un damelot, mais une damoiselle. Après quoi, elle a brandi son arme, annoncé qu'il était temps de laver les crimes, temps de payer. Hugon mourait du sang de son sang, et d'une main ferme, elle lui a sectionné la carotide. L'ennemi assistait à la scène, éberlué. Cet oiselet avait oxy Hugon le terrible. Elle a profité de la cohue pour empoigner les cheveux du seigneur, clamer « La forêt vous a vengé, Aïda, Guillaume et la Noiraude. La forêt a vengé notre sang, Joseph, Gala et Mancheciel. » Et dans la seconde, elle a définitivement tranché la gorge du bonhomme, sauté sur son coursier et galopé, emportant son trophée sous le regard médusé des troupes. Elle s'appelle Miu. Elle n'est pas l'écuyer d'Hugon le de Bure. Elle est son bourreau, sa petite fille. Voilà. Donc, tout tranquillement, ça, c'est les premières lignes de ce magnifique roman. On rentre. Moi, j'avais un peu l'impression d'être dans Game of Thrones, vous voyez. On est dans cette espèce d'univers médiéval et en même temps très shakespearien. Voilà, la langue, vous avez vu, elle est riche. On plonge en apnée dans cette histoire. C'est plein de rebondissements et c'est comme ça que ça commence, en tout cas. Voilà, et on va devoir remonter quelques décennies plus tôt pour découvrir tous les actes, les secrets qui ont mené à ce dénouement. Et on va savoir que ce geste prend racine plusieurs générations en arrière, aux confins des Alpes, où sont nés trois bébés, des triplés. avec tous une tache sur la nuque. Voilà, témoin de leur ascendance et témoin du viol dont a été victime leur mère. 3 bébés séparés au berceau. Il y en a un des enfants qui va être confié au prieuré. La deuxième qui sera l'enfant de Clarisse, la femme stérile du Seigneur. Ce Seigneur qui va être tué par sa petite fille et qui possède la même marque sur la nuque. Et la troisième née, elle est née avec le cordon autour du cou et elle va rester auprès de sa mère et elle va vivre dans les bois. Et là, on va suivre ces trois destinées. Aucun de ces enfants n'ont connaissance de ce qui se passe pour les autres. Personne ne se connaît. Et ensuite, tout ça va se regrouper. Les secrets vont exploser. Et on va rentrer dans cette espèce de quête de vengeance. Et donc, trois fois la colère. Trois fois la colère. De Laurine Roux. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. Pour rester un peu sur la colère... Voilà, parce que bon, ben oui, on démarre 2026, voilà, on apprend au 2 janvier, par exemple, qu'il y a des gens qui sont capables d'aller, chercher un chef d'État et l'enlever avec toute impunité, voilà, donc ça nous fait nous réveiller quand même avec quelques colères et non pas qu'avec nos petits bonheurs. Donc du coup, là, pour rester un petit peu sur cette note, je vais vous parler d'un roman qui est sorti en février 2025, d'Adèle Yon, aux éditions du Sous-Sol. Vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle « Mon vrai nom est Elisabeth ». Donc « Mon vrai nom est Elisabeth », c'est un texte hybride qui est assez bouleversant, entre récit intime, enquête autobiographique, et Adèle Yon, là, elle va redonner humanité et rendre justice à Elisabeth, qui était donc son arrière-grand-mère, mais aussi à toutes les femmes qui auront été maltraitées psychiatriquement. Voilà. Et Elisabeth, c'est celle dont on ne parle pas dans la famille d'Adèle Yon. C'est un prénom tabou qu'on ne prononce pas, ou alors avec le surnom de Betsy. Betsy, elle est plombée, tout ça c'est plombé par des secrets de famille et donc il y a une grande omerta et un grand silence qui se fait sur cette Elisabeth. C'est celle qui était soi-disant folle, qui a été diagnostiquée schizophrène et internée de force de 1950 à 1967 dans un hôpital psychiatrique du Loiret, où elle a subi des électrochocs et puis évidemment les premières lobotomies frontales qui va la laisser cette femme avec deux énormes trous de chaque côté du crâne. Voilà, d'ailleurs c'était une présence un peu terrifiante comme ça, une image qui a hanté vraiment la psyché de toutes les femmes de cette famille. Donc Adèle Yon, c'est l'arrière-petite-fille d'Elisabeth. Et elle a très peur, elle, d'avoir hérité de la folie de son arrière-grand-mère à un moment de sa vie où elle se sent fragilisée. Du coup, on est vraiment sur cette partie à la fois autobiographique et elle va devoir exhumer tous ses secrets. Donc, pour pouvoir à un moment arriver à vivre. Donc, elle va braver les interdits et l'omerta familiale et ouvrir la brèche en posant des questions auxquelles personne ne voulait répondre. Et donc, on va avoir vraiment les interviews aussi de membres de sa famille. Et elle veut essayer de découvrir qui était cet aïeul dont on ne parle pas. Adèle Yon, c'est aussi celle qui va se confronter à ce double pour pouvoir devenir elle-même et celle qui va enquêter sur la malédiction qui rendrait soi-disant les femmes de sa famille folles, quitte à réveiller beaucoup de souffrance. Mais donc, elle va reconstituer la biographie d'Elisabeth, mais en même temps, ça va être aussi, finalement, rendre justice à toutes les femmes. Moi, j'ai appris dans ce roman que 80% des lobotomies étaient effectuées sur des femmes. Et qu'on lobotomisait les femmes pour qu'ensuite elles puissent repartir dans leur foyer et être bien mignonnes et faire bien ce qu'on voulait d'elles. Voilà, et donc c'est quand même, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Elle mène une enquête érudite, vraiment. Elle va parcourir les archives médicales. Il y a vraiment, c'est très hybride parce qu'on va retrouver aussi des photographies. C'est vraiment une œuvre témoin. Et c'est une chercheuse, Adèle Yon. Voilà, elle avait vraiment peur, elle aussi, de devenir folle. Donc elle a essayé de rompre le silence. Et donc, cette œuvre, c'est assez fou. Elle dispose de très peu de choses sur l'histoire de sa grand-mère, sur cette femme qui est morte du coup avant sa naissance. Et c'est juste des légendes familiales sur une vieille dame qui était coquette, qui aimait bien nager. On sait qu'elle avait un bonnet de bain en caoutchouc. Enfin voilà, c'est qu'elle aimait bien nager dans la propriété de famille quand on pouvait l'extraire de l'hôpital psychiatrique dans laquelle son mari allait toujours lui faire des enfants quand même. Hein. Voilà. Et puis que c'était une dame qui avait une certaine calvitie de chaque côté du front. Elle faisait peur un peu à tout le monde. Voilà, donc au milieu de toute cette... elle va aller chercher les informations et donc elle nous transmet aussi à la fois, c'est vraiment écrit, c'est haletant parce qu'au fur et à mesure, on est avec elle et c'est vraiment un espèce de thriller immersif. On est happé par les révélations qui se font, par elle-même, les coups de théâtre, les scènes, toutes les scènes marquantes. Donc voilà, c'est vraiment fait comme ça, comme un espèce de kaléidoscope. Et elle vient vraiment réhabiliter en fait la figure de sa grand-mère qui était juste une femme qui n'avait pas envie de rentrer dans le moule. Et donc c'est son père à elle et son mari qui l'ont fait interner pendant je crois presque 40 ans. Quoi. Voilà. Donc c'était donc Adèle Yon et un moment est en colère, et nous aussi, on est en colère quand on referme ce livre. Il y a vraiment quelque chose, mais une colère saine. On se dit, mais voilà, c'est un travail qu'elle vient de faire. Voilà, on est quand même en 2025 quand elle sort ce livre. Et voilà, c'est la réhabilitation de toutes ces femmes qu'on a cherché à museler et puis carrément qu'on a lobotomisées pour qu'elles se remettent dans le droit chemin du ménage et du repassage. Et de se taire, et de faire des enfants, et voilà. Voilà, ça, c'est du coup, mon vrai nom est Elisabeth, c'est un gros coup de poing, et ça devrait être lu par tout le monde, parce que c'est vraiment une œuvre extraordinaire. Voilà, vraiment sur le poids de l'hérédité, sur les violences faites aux femmes, sur la psychiatrie aussi, on en apprend beaucoup sur la psychiatrie du XXe siècle, à travers sa voix, les archives, les entretiens... Je vous convie à découvrir Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Yon. Et là, je vais vous proposer de partir sur un essai. Alors, en fait, une librairie, ça se fait avec plein de sens. Et ça, par exemple, nous, on commande des choses pour nos lecteurs. Mais parfois, c'est vous aussi qui faites l'orientation aussi de notre librairie. Et là, par exemple, ce petit livre-là, il a été commandé par un client et je l'ai eu entre les mains. Et du coup, j'en ai commandé plusieurs pour la librairie. Voilà. Et il y a plein de romans d'ailleurs comme ça et plein d'essais voilà, où on écoute et qu'on écoute aussi nos lecteurs. Et parfois, on peut grossir les rangs de nos rayons grâce à vous. Et ça, voilà, je remercie la personne qui me l'a commandé. Ça s'appelle Élevé et c'est d'Elsa Sagnal et c'est chez Saüs Saüs. C'est un petit essai. Du coup, Elsa Sagnal, elle est géographe de formation et elle est éleveuse de brebis en Haute-Loire. Elle soutient la pratique d'une agriculture paysanne avec du coup une approche féministe. Je vous dis juste une petite chose qu'elle a écrite. Il faut nous rappeler que leurs yeux sont perception et que leurs flancs sont sensation. Et demander aux vétérinaires de nous fournir des antalgiques. Voilà, ça c'est la dernière de couve qui dit ça. Et donc dans une langue simple et claire, ce livre c'est un documentaire en fait qui raconte par petites touches et aussi parfois par des notes poétiques. Donc des fois, ça va être trois phrases sur une page. Elle raconte vraiment le métier d'éleveur, l'expérience sensible et aussi l'invisible du métier d'éleveur. Elle met en lumière les politiques publiques agricoles aussi, les injonctions au productivisme ou les assignations de genre qui structurent le métier tout autant que les attentions à l'égard de la vie et de la mort animale. Voilà, c'est vraiment un petit livre, coup de poing comme ça, qui s'appelle donc Élevé, d'Elsa Sagnal. Et donc je vais vous lire juste le tout début. Enfant, la professeure nous disait « Pour devenir grand, il vous faudra mettre les mains dans la terre. Ne faites pas trop d'études, sinon c'est les études qui vous feront. J'ai fait les études. Les études m'ont défaite. Et puis, j'ai mis les mains dans la chair. » Petite, quand j'entendais l'expression « sortir du cul des vaches », je voyais une souillonne aux cheveux crasseux vêtue de lin jaunâtre, âgée d'une dizaine d'années et déjà rompue au travail. Naître de l'anus d'une vache et tomber dans la fange. Sable mouvant dont elle n'arriverait jamais à s'extraire. Vivant et dormant là. C'est le début de son livre et je trouve que c'est une approche qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir entre... C'est écrit dans une forme de versification libre, voilà, avec vraiment des retours à la ligne qui nous permettent... c'est vraiment une versification libre. Et c'est très agréable à lire et c'est très beau. Et je trouve que c'est vraiment des impacts comme ça, quoi, comme des flèches qu'elle vient tirer. C'est vraiment très, très beau. Voilà. Élevé. Attendez, je voulais vous lire autre chose parce que vraiment, il y a quelques pages là qui m'ont... Ah, voilà. Pour être au plus proche des habitudes alimentaires des brebis, pour moins dépendre du pétrole, pour réduire nos charges, pour le milieu, pour la beauté, pour elles, nous faisons pâturer nos bêtes, au maximum, toute l'année. Nous arpentons des lieux et des moments, délaissés par l'agriculture mécanisée, dans les bois et la caillasse, sous la neige. Faire manger de l'herbe à nos bêtes, évidence. Et défi. Quand nous avons passé toutes les digues, celle de l'habitude du troupeau, celle de la lenteur de l'engraissement, celle de la connaissance des dynamiques des prairies, celle de la clientèle qui veut du tendre, du jeune et du charnu, celle de la profession qui, nous voyant peu sur le tracteur, nous trouve flâneurs, il reste les propriétaires. Ils sont pression pour que leur terrain soit propre. Ils sont jugements, et pour les satisfaire, il faudrait en permanence faucher, broyer, débroussailler, tenir la végétation sous contrôle. Mais ce sont les broussailles que les brebis viendront trouver pour se nourrir sous la neige et dans le sec du mois d'août. La ronce est notre richesse. C'est plein de petites sentences comme ça, et je vous invite à découvrir ce merveilleux livre élevé chez Saüs Saüs. Et pour terminer, un livre jeunesse, je dirais moi à partir de 4 ou 5 ans. Pour le moment, je ne l'ai pas encore proposé à mes enfants, je pense qu'ils sont encore un peu jeunes, qui s'appelle « La forêt en toi » de Gaïa Wisniewski. Et c'est aux éditions Mémo. Donc, pour vous parler de ce livre magnifique, c'est fait au fusain. Donc on est vraiment sur un travail autour du noir et blanc et parfois, est-ce que c'est à l'aquarelle? Je pense que c'est à l'aquarelle, elle vient retravailler sur des petites touches de couleurs. Donc parfois ça va être le blanc sur la cime des arbres ou alors vraiment une robe, le liseré d'une robe qui va ressortir tout d'un coup dans un bleu magnifique. Donc voilà, c'est un album qui va nous parler de deux sœurs qui vivent à l'orée d'une forêt et elles ont l'interdiction d'y entrer. Cette forêt, c'est vraiment une forêt gigantesque et on a peur d'y rentrer. Il y a des ronces et en même temps, il y a vraiment les arbres sont tellement fouillus entre eux qu'il y a cette peur de tout d'un coup, on rentre dans cette orée noire. Et il y a une des deux sœurs, la plus jeune, qui va être happée par cette forêt. Et du coup, ça va être la forêt en toi, la forêt en elle. Donc, je vais vous lire juste pareil, en fait. Plutôt que vous en parler pendant très longtemps, j'ai plutôt envie de vous lire quelques phrases de ce magnifique album jeunesse. Ce jour-là, Ivy n'était pas entrée dans la forêt, mais quelque chose avait changé. Comme une petite graine, cette nature commençait à germer en elle. Ivy y pensait tout le temps. La forêt l'habitait. Ivy se levait à l'aube et revenait au crépuscule, dans cette étrange luminosité entre chien et loup. Et puis, un matin brumeux, Ivy franchit l'entrée de la forêt. Plus rien ne fut comme avant. Ses mots, ses gestes, son odeur, son regard. Elle qui faisait tout comme moi, elle empruntait maintenant un nouveau chemin, seule. Sa forêt nous envahissait de plus en plus. Plumes, squelettes d'animaux, glands, lichens, brindilles. La maison en était remplie. Un soir, Ivy était revenue avec une épine sous la peau. Elle ne voulait pas qu'on lui enlève. « Regarde, Inga. Ma peau, on dirait du papier calque. Si je laisse l'épine, un arbre poussera sûrement en moi. » Voilà, c'est vraiment très délicat. Et ça va être sur comment est-ce qu'on emprunte chacun des chemins, parfois, dans la vie. Mais ces deux sœurs vont toujours se retrouver à l'orée de cette forêt. Et on va les suivre, elles vont devenir... l'une mère, l'autre non. Et il y a celle qui sera celle qui habite cette forêt et l'autre qui est celle qui vient à l'orée de cette forêt. Et elle va rencontrer sa nièce, voilà. Mais à chaque fois, elle se laisse des petits cadeaux, des petits présents à l'orée de cette forêt. Et comment ces deux femmes, ces deux petites filles vont devenir femmes et vont devenir âgées et vieilles. Et vont continuer à se rencontrer, parfois subrepticement, tout doucement, voilà. Et c'est vraiment délicat, c'est aussi délicat que les quelques lignes que je vous ai lues. Voilà comment est-ce qu'on passe son enfance. Et du coup, ce qui me fait vous dire au revoir. Et je vous laisse avec une note sur l'enfance de Barbara, que j'adore particulièrement et je trouve très à propos. À très bientôt.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits, tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Ou mes printemps, ou mes soleils, ou mes folles années perdues, ou mes 15 ans, ou mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu. Oh, les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse. Hélas, pourquoi suis-je donc revenue et seule au détour de ces rues? J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici où mon passé me crucifie? Elle dort à jamais, mon enfant.